Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Philippe Manière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Président de Vaisselis Communication, vous avez publié Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Mathieu Plante, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Qui commence, Eric? Est-ce que Eric Coquerel, est-ce que ça vous inquiète? Jean-Marc, pardon.
Alors, Eric Coquerel. Il n'a pas des compétences financières et économiques reconnues.
Il a 50 commissions déjà derrière lui,
oui.
Des finances.
Hein. Oui, bon. Mais bon, ça ne suffit pas à faire.
D'accord.
Voilà. Si vous regardez les présidents précédents des commissions, ben, on n'a pas les mêmes calibres. Alors on peut dire, ce n'est pas important, la démocratie, c'est qu'il y a de la nouveauté, c'est qu'il y a la représentation des nouvelles forces qui montent en puissance, qui sont montées en puissance sur la législative. Ok, on peut dire ça. Mais ça, c'est du principe. Quand on se plonge dans la mécanique parlementaire et dans la mécanique budgétaire, qui sont deux mécaniques extrêmement complexes, si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu les rouages, c'est même très très compliqué. Voilà. On peut dire aussi toutes les raisons qui ont amené à cette élection sont des raisons qui sont bancales. Hein, on évoque une longue tradition républicaine, comme quoi les députés de la majorité ne votent pas à cette élection. Longue tradition républicaine qui s'est appliquée à trois reprises.
Bah oui, c'est ça.
2010, 2012,
c'est un 2017. Usage en plus. Hein.
Voilà,
c'est un usage et pas un règlement.
C'est un usage. Hein. Il y avait deux autres usages dont personne ne parle. La première, c'était que le président élu à la tête de la commission des finances était quelqu'un de plutôt modéré. Hein, si vous regardez, donc là encore, si vous prenez les trois précédents, hein, vous avez Jérôme Cahuzac,
Gilles Carrez
et Eric Woerth. Hein, donc cette personnalité modérée à tel point que le dernier a fini par changer de camp en cours de mandat. Donc une personnalité modérée, là, c'est pas le cas. Et l'autre point, c'est que c'est une personne hautement compétente sur le sujet. Alors, on peut dire, Jérôme Cahuzac qui était trop compétent sur les questions fiscales. On peut ensuite avoir ce débat-là. Mais c'était des gens qui avaient une réelle compétence sur le domaine dont ils présidaient la commission. Et là, je suis désolé, c'est pas le cas. Donc, au nom d'une tradition républicaine longue et ancestrale qui s'est appliquée à trois reprises, on ne respecte pas deux autres longues traditions républicaines qui sont appliquées à trois reprises. Et je pense que ça va encore compliquer le jeu de l'Assemblée. Alors. Juste si vous me laissez 30 secondes de plus. Maintenant, je vais basculer de l'autre côté. Je vais dire, et si c'était finalement pas inutile ? On sait qu'en matière de fiscalité, il y a des arrangements qui se font, notamment à Bercy, de manière pas très claire, de manière opaque, pas forcément toujours au nom de l'intérêt général, et qu'il y a sans doute des choses à faire progresser là-dessus, et qu'un président de la commission des finances qui a ce souci-là, ça peut peut-être faire changer les choses, à condition que ça soit bien fait, à condition qu'on tombe pas dans l'inquisition ou dans la chasse aux sorcières, mais il y a aussi, en matière fiscale et en matière de fiscalité des entreprises, des choses à améliorer.
C'est vrai que quelquefois, il y a des tours de passe-passe tout à fait légaux, pas forcément d'ailleurs évidents à repérer, et ça arrive très régulièrement.
Non, mais la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est au nom de l'intérêt général ?
Oui, mais je crois. Mais...
Voilà. Et parfois, il est vraisemblable que ça ne soit pas le cas.
Un mot à ajouter sur Éric Coquerel, Philippe Manière ?
Non, mais c'est pas grand-chose à ajouter, parce que Jean-Marc a dit l'essentiel. Alors, si vous voulez, il faut quand même regarder les choses avec calme du point de vue de la légitimité, parce que maintenant, on met en cause la légitimité de tout le monde tout le temps. Macron serait pas légitime parce qu'il y a des gens qui sont abstenus, Coquerel, etc. Bon, il est infiniment légitime comme député. Moi, je suis absolument désolé de voir que la ville où je vis porte à l'Assemblée nationale Sandrine Rousseau ou Émeric Caron, mais voilà, c'est le jeu de la démocratie. Donc, il est très légitime, il est complètement normal qu'il soit à la Assemblée. Ces idées peuvent être les vôtres, pas les vôtres, mais elles ont le droit d'être... Donc tout ça, il ne faut quand même pas oublier que c'est un député de la République, il a toute légitimité, et s'il est désigné par ses pairs, et ben voilà, il a toute légitimité à être au poste où il est. Après, il y a effectivement le problème de la compétence qu'on a évoqué il y a un instant. On y reviendra d'ailleurs sans doute, je pense, quand on parlera des banques centrales, parce que moi, c'est un des vrais sujets qui me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que plus les sujets sont techniques, plus dans cette espèce de vague de démocratisme dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on porte au pouvoir des gens qui sont absolument pas qualifiés pour occuper le poste. Juste sur Coquerel, deux choses. Il est légitime, il est respectable. Il a eu 5 ans de présidence de la commission, pas de présidence, mais de participation à la
présence.
À
la commission.
Présence, j'ai pas vérifié. En tout cas, il était membre de la commission
d'appartenance.
Moi, il y a quand même deux choses dans ses déclarations au moment de son élection qui sont tout de même un peu troublantes, me semble-t-il. Il a dit, de toute façon, quelqu'un qui ne fraude pas n'a pas d'inquiétude à avoir. Ça, c'est assez typiquement ce qu'on dit dans des régimes totalitaires. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous faites l'objet d'écoute, puisque de toute façon, si vous êtes une personne honnête, vous n'aurez pas de difficulté. Donc, moi, je trouve que c'est pas de bonne manière de dire, pas de bonne méthode de dire si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur, parce que ça laisse à penser qu'on s'autorise tous les contrôles possibles. C'est, je trouve que ça sent pas très bon. Puis il a dit aussi quelque chose. Il a dit dans le poste où je suis, je ferai valoir mes idées. Je reviens sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Non, enfin, bien sûr, ces idées sont audibles. Il est normal qu'il essaye de les faire avancer. Mais le président de la commission des finances n'est pas là pour faire du militantisme. Donc ça, je trouve que c'est quand même relativement préoccupant. Puis il y a quand même ce que ça dit. Et c'est que le début. Je sais pas combien de temps ça durera jusqu'à la dissolution. Mais c'est ce que ça dit de la des effets pervers de la mécanique à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres solutions bien préférables sur le papier. Charles de Courson, Valérie Rabault, etc., qui sont des gens éminemment respectables et respectés bien au-delà de leur camp respectif, j'allais dire. Eh bien, ils ont été éliminés parce que on veut pas voter avec un tel, on veut pas être soupçonné de, on veut pas faire de peine. Moi, je pense que Valérie Rabault aurait dû maintenir sa candidature. Je pense que naturellement, le PS, qui est dans une phase de veulerie épouvantable, a eu tort de pas dire non, on a une bonne candidate compétente. Il se trouve d'ailleurs que c'est une femme, ce qui ne gâche rien. On la maintient. Et donc, à l'arrivée, on se trouve avec une solution qui n'est pas la bonne. Même s'il faudra juger sur pièce, pour des raisons qui, en fait, étaient évitables. C'est ça qui est un peu regrettable. Et bon, encore une fois, le plus probable, c'est que ce ne soit pas une assemblée qui dure très longtemps. Ouais, c'est quand même pas le meilleur casting possible que ce Coquerel dans ce poste-là.
Mathieu Plame, un mot
pour avoir non, parce que c'est vrai que c'est quand même un rôle important, hein, cette présidence de la commission des finances à l'Assemblée. C'est quand même, j'allais dire, celle qui a le plus de pouvoir. Je crois qu'il y a 70 membres. Donc c'est aussi voir comment il va diriger cette commission.
Il a un rapporteur général les mêmes pouvoirs que lui, qui est issu de Renaissance, le député du Gers, Jean-René Cazeneuve.
Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que ça va être assez intéressant parce que en règle générale, c'est un peu aussi les gardiens du temple. Hein,
oui.
Au terme de finances, et là, on n'est pas dans la situation.
L'efficacité.
C'était plutôt dans l'autre sens. C'était justement parce que les budgets de l'État, les trajectoires budgétaires n'étaient pas forcément respectées, parce que il y avait soit trop de dépenses, soit trop de baisses d'impôts. Donc c'est vrai que là, on est un peu dans la situation inverse où effectivement,
il va faire les choses en chair.
Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Alors que le rôle de la commission des finances était plutôt un peu de vérifier que.
C'est une vigie,
etc. Sur ces questions de cadrage budgétaire, de trajectoire macroéconomique, au-delà des questions même fiscales. Donc on va voir comment ça change complètement en fait les relations. Hein.
Si vous me permettez, un mot là-dessus, en mettant en perspective un peu plus longue. Le Parlement, il a été créé pour ça.
Oui,
ça.
Ouais.
Hein, il a appelé, si vous reprenez les origines de la démocratie parlementaire, en particulier
1215,
en Angleterre,
la Grande Charte, voilà, c'est ça l'idée.
En particulier en Angleterre, en 1215, à la fin du XVIIe siècle, et en France, quand le but c'était de contrôler les finances du roi. Et donc là, on ne va pas tout à fait dans ce sens-là.
Non, c'était ça. Hein.
On parle de tradition, donc parlons d'une autre tradition. Voilà. La tradition budgétaire, c'est de contrôler les finances, contrôler les finances de l'exécutif.
Le budget, c'est l'essence du Parlement, et c'est le moment cardinal de la. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ce texte-là. Peut quoi qu'il arrive être passé en 49-3. Vous écrivez dans les colonnes de Marianne, Philippe Manière, je trouve que la formule est bonne, en politique c'est comme en économie, on a un problème d'offre et pas un problème de demande. J'ai trouvé ça.
Oui, merci d'avoir apprécié. J'ai été frappé parce qu'on a ce débat en permanence, alors j'allais dire entre économistes et entre amateurs économistes comme moi, sur est-ce que la France ou le monde ont un problème d'offre. Bon, moi je pense qu'en France, à mon avis, il n'y a pas de doute, c'est un problème d'offre qu'on a principalement. Or, on fait comme si on avait un problème de demande et ça fait 25 ans qu'on essaye de régler un problème qu'on n'a pas. Et moi, je trouve que ça m'a frappé lors de ces deux tours de l'élection législative de voir. Maintenant, on en parle moins, on vient de parler des équilibres parlementaires. Sont très incertains, donc on est un peu obsédé par ça, mais le truc vraiment le plus important de ce scrutin, c'est une énorme abstention et c'est un vote extrême qui fait quand même 40% des sièges, donc c'est quand même ça le plus important à mes yeux. Alors pourquoi ? Alors, il y a des tas d'explications, on vous dit les réseaux sociaux, oui d'accord, mais enfin au Danemark et au Royaume-Uni aussi il y a des réseaux sociaux, les types votent pas aux extrêmes et ils vont voter quand il y a des élections. Bon, donc il y a quand même des. Et puis il y a plein d'autres raisons qu'on invoque et qui sont pas mauvaises, mais il y a tout de même un problème spécifiquement en français. Moi ce que je crois, c'est quand même beaucoup d'orphelins dans ce pays du point de vue électoral, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez quand même à l'histoire de la pensée politique et à la tradition politique européenne, il y avait quand même deux grandes familles de pensée qui, en gros, alternaient, se tiraient la bourre, mais n'étaient pas complètement radicalement hostiles l'une à l'autre, même s'il y avait une alternance légitime. C'est en gros la famille chrétienne-démocrate-libérale, et puis la famille sociale-démocrate-responsable. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'héritage de ce qu'on a pu appeler l'UDF, où vous aviez à la fois un Madelin et un Jacques Barrou ou un Méhaignerie. C'est un peu la CDU allemande, j'allais dire. Et puis, de l'autre côté, vous avez le socialisme responsable.
Le SPD,
moi, j'ai vu des personnalités absolument remarquables dans ma première carrière de journaliste, les Michel Rocard, les Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, on ne le dit pas assez, qui était un adulateur absolu de la concurrence. Quand il faisait Paris Innovaire, il relevait le prix de l'essence dans les stations pour vérifier s'il y avait de la concurrence. Donc vous voyez, c'était pas un socialiste planificateur, c'est un socialiste qui croyait à la création de valeur par la mise en concurrence. Donc ces deux familles de pensée, aujourd'hui, elles ne pensent plus. Elles sont quasiment éliminées. Et donc, si vous êtes plutôt, ce qui est mon cas, mais c'est le cas, je crois, de beaucoup de Français, donc peu importe que ce soit le mien ou pas, mais si vous êtes plutôt porté à penser que c'est l'une de ces deux familles vous séduit, d'ailleurs pas forcément la même au fil du temps, bah, aujourd'hui, où elle est l'offre ? Elle est où l'offre qui correspond à ça ? Pour qui vous votez quand vous allez le dimanche dans votre bureau de vote ? Il n'y a plus rien. Alors, c'est d'abord l'effet Macron, hein, qui est absolument diabolique à mes yeux. C'est-à-dire qu'en 10 ans, je prends tous les hommes de bonne volonté, bah, vous captez à vous tous les gens qui sont plus ou moins à la gauche de la droite et à la droite de la gauche. Il reste quoi ? Devinez quoi ? Bah, ceux qui sont à la gauche de la gauche ou à la droite de la droite, c'est-à-dire les extrêmes. Donc c'est une catastrophe pour le paysage politique. Mais au-delà, il y a quand même une énorme paresse intellectuelle d'une grande partie de la classe politique. Où sont les héritiers intellectuels de Madelin, de Barrot, de Méhaignerie, de Rocard et de Bérégovoy ? Où sont-ils ? Alors, on a cité quelques noms. On peut dire Cazeneuve, oui, Lisnard, oui, mais voyez, on cherche des gens et généralement ils n'ont pas de troupe, en tout cas à ce stade. Donc, moi, je disais simplement dans ce papier, faut pas s'étonner que les gens n'aillent pas voter et on peut pas faire grief aux gens de rester chez eux si ils n'ont pas de bulletin de vote possible pour exprimer des idées qui sont quand même, à mon avis, respectables, profondément ancrées et en résonance parfaite avec la civilisation européenne. Si vous n'avez rien. Si vous n'avez personne pour qui voter, bah après tout, restez à la maison. Ou alors, faire le numéro de claquette, on renverse la table et on va voter pour les extrêmes, c'est pas incompréhensible. Donc n'engueulons pas les électeurs qui n'ont pas de bulletin de vote qui leur convienne. Non mais je veux dire, au bout d'un moment...
Il y a un truc, allez-y.
Oui, bien sûr. D'abord, la paresse.
On avance après. Hein.
La paresse, c'est saisissant.
C'est ça. Terrible.
Philippe faisait allusion à son ancien métier. Moi, je peux faire référence à mon métier actuel, qui est éditorialiste. Éditorialiste, c'est suivre les idées.
C'est ça.
Et animer le débat d'idées. En écoutant et en faisant parler les uns et les autres. Et du côté politique, je peux vous assurer que depuis 15 ans là-dessus, je suis en chômage technique.
Hein, c'est
terrible. Je suis en chômage technique. Et quand j'en parle à gauche comme à droite, ils le reconnaissent. Off. Mais évidemment, dans le micro, ils disent « Non, on a fait tout un programme, tout ça, etc. » Et pour moi, la victoire de Macron il y a 5 ans s'explique par le fait qu'il avait eu le temps de réfléchir à un programme à partir du moment où il avait été rapporteur de la commission Attali, donc 10 ans plus tôt, ce qui l'avait amené à avoir une vision et une réflexion globale qui lui a permis d'avoir quelque chose qui ressemblait à un programme il y a 5 ans.
Quelque chose qui ressemblait me paraît plus conforme à la réalité qu'un programme.
Et qui a fait une très nette différence par rapport à tous les autres.
Donc
ça, c'est la première chose. Je crois qu'il y a une absence de débat et j'ai eu des témoignages des deux côtés confondants là-dessus. Il y a un autre point qui est même français et qui est vraiment une spécificité française qu'on n'a pas ailleurs et qui explique aussi, je pense, et cette paresse et ce problème d'offre majeur, c'est le système de vote, le système majoritaire uninominal qui force à des affrontements en permanence. Et on le voit de manière absolument saisissante aujourd'hui à l'Assemblée, où on a des députés qui ont été élus. Après s'être affrontés au premier tour, au deuxième tour, ils ont quelque chose de... L'opposition est très très violente. Et donc, faire une coalition dans cet esprit.
Ça, c'est une autre question.
C'est totalement. Oui, mais c'est lié.
Ça n'empêche pas de penser, hein.
Non.
Ça n'empêche pas. Ça force.
Avec le même mode de scrutin, il y a 25 ou 30 ans, il y avait des idées à gauche et à droite.
Oui, mais dans les autres pays aussi. Et aujourd'hui, franchement, je crois qu'il y a une vraie différence là-dessus. Aujourd'hui, on a 10 groupes à l'Assemblée nationale.
Ouais,
je rappelle qu'à mandature précédente, on en avait 7, avant 6, avant 5, avant 4. C'est aussi une autre traduction de ce problème d'offre.
6% presque d'inflation, Mathieu Plas. Bah, vous vouliez vous dire.
Bah oui.
Ah bon,
non,
allez-y.
Non. C'est vrai que c'est assez français. Le paysage politique est extrêmement fragmenté. On a eu des épisodes quand même aux États-Unis, au Royaume-Uni avec le Brexit ou Trump qui montrent quand même que il y a aussi un événement un peu plus global, hein, qui est lié aussi à un choc macroéconomique depuis 2008 avec une crise quand même qui est majeure, hein, et donc il y a des questions essentielles qui reviennent assez rapidement sur la question des finances publiques, du pouvoir d'achat qu'on retrouve. Et je crois que la difficulté aussi, c'est de tenir le bateau, le cap, dans cette situation économique assez difficile. Or, effectivement, ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a une forme de surenchère, hein, aussi, on voit dans les mesures, hein, budgétaires, fiscales. La question, c'est que aujourd'hui, ça crante pas dans le débat, ou en tout cas, ça imprègne pas le débat quand vous avez des mesures qui sont, entre guillemets, raisonnables. C'est-à-dire qu'on attend vraiment un changement radical des choses. Et effectivement, la question, c'est est-ce que c'est applicable ou pas ? Tant que vous ne l'avez pas appliqué, vous pouvez dire oui, c'est possible de le faire. Vous êtes toujours en train d'essayer de dire bon, non, oui, effectivement, non, on ne peut pas le faire. Et d'autres vous disent si, on peut le faire. Donc vous êtes dans ce débat-là. Aujourd'hui, la pensée, j'allais dire, modérée ou raisonnable, en fait, ne peut plus imprégner parce que vous voyez que vous arrivez aux limites de ce qui est à peu près faisable. Donc c'est vrai que ce qu'attend une partie de la population, c'est vraiment un changement radical. Et la question, c'est est-ce que ce changement radical est applicable ou pas une fois que vous êtes au pouvoir ? Enfin, c'est vraiment la question. Vraiment, il n'a pas été mis en place réellement.
Si la réponse est non, on ne le saura qu'après qu'ils auront échoué.
Exactement.
Et ça aura coûté très cher.
C'est le risque, il est là. C'est-à-dire que c'est effectivement de passer dans la responsabilité et de voir si ça fonctionne ou pas.
Mais on revient.
Mais avec les dangers que ça. Ça, hein.
On revient au travail. Hein. Oui. Le parti politique qui avait le plus travaillé pour la présidentielle, c'est LFI.
Oui, et d'ailleurs, c'est LFI.
Et sans nul doute, avec des. Alors, on peut dire, il y a 90%, ils auraient pu écrire la même chose avec 40 ans, et les 10% restants,
ils arrivent avec un programme assez.
Mais c'est les seuls qui ont fait un programme.
Et il y avait encore qui est contestable sur les évaluations, etc. Mais en tout cas, il y a un programme.
Il y a un programme qui avait été.
Eux vont dire, c'est applicable, c'est réaliste, etc.
Qui avait été bâti sur un travail qui a duré des années, etc.
Mais LR et LPS,
rien.
On s'est fait un plat depuis 25 ans.
Ils n'arrivent plus à se positionner, en fait. Je pense sur la question économique, ils ont du mal à trouver un angle d'attaque, en fait.
Mathieu, on a 3 minutes avant de marquer une pause. 6% pratiquement d'inflation, là, aujourd'hui. Ça va trop vite, trop fort. La Banque de France nous dit 7% en septembre. On parle de la France, hein. Les États-Unis, on était à plus de 8. Est-ce que.
En Espagne.
Pardon ? Oui, dit ça. Alors, est-ce que ça va trop vite, trop fort ? Et après, la question est qu'il faut aller vers une. Souhaiter une récession pour que ça s'arrête, quoi.
Le problème, c'est il faut pas souhaiter. C'est la conséquence que ça peut avoir. Hein, c'est la récession. Alors effectivement, justement, ce serait un atterrissage assez brutal, hein, qu'il y ait ce choc inflationniste. Il faut voir que effectivement, nous prête 6%, mais on s'en sort plutôt bien en réalité par rapport à nos voisins européens. C'est une des rares fois où justement on a plutôt une position relative qui est favorable par rapport à une moyenne européenne qui est plutôt autour de 8%, et notamment parce qu'il y a le bouclier. Tarifaire. Il faut savoir
toutes les mesures.
La France a aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible de la zone euro.
Exactement.
Ce qui historiquement.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de compétitivité relative, c'est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que du coup, on gagne en part de marché. C'est la première fois en compétitivité prix. Parce que si on gagne 3 ou 4 points par rapport à nos principaux partenaires commerciaux par an sur les prix relatifs, c'est plutôt assez favorable en réalité dans notre position commerciale.
Là où c'est des secteurs exposés, parce que dans les bistrots parisiens, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de concurrence avec les bistrots berlinois.
Oui, mais c'est vrai aussi dans les salaires, parce que l'effet de second tour, du coup, est moindre. Apparemment, vous avez des prix qui augmentent de 6%, vous êtes moins obligé d'augmenter les salaires pour compenser. Donc, sur les effets de compétitivité-prix, et donc c'est vrai que bloquer les prix, en tout cas en partie de l'énergie, ça a été finalement assez efficace, parce que ça évite des effets de second tour qui seraient plus forts. Si vous n'aviez pas bloqué, par exemple, ce que font les autres pays, c'est qu'ils envoient des chèques, en gros. Donc, vous avez à la fois l'inflation, et en plus, vous donnez des prestations ou des revalorisations de salaire. Donc, cette inflation, elle pose beaucoup de problèmes. Premièrement, parce que c'est une inflation quand même qui est beaucoup importée. Je rappelle que même sur les 6%, on en a pratiquement la moitié qui sont liés encore à l'énergie.
Bien sûr.
Donc, il y a un choc macro, ça veut dire que vous payez surtout plus cher votre énergie. Donc, ça veut dire que c'est un choc sur le pouvoir d'achat et sur les entreprises et leurs marges, en gros, premièrement. Et puis, il est extrêmement inégalitaire, quoi. C'est-à-dire que c'est là où ça va créer des fragilités. C'est que nous, on avait montré que 10% de la population a à peu près 2% d'inflation, et 10% est à plus de 8%. C'est-à-dire, en fonction de votre lieu de vie géographique, est-ce que vous avez une voiture, pas une voiture, est-ce que vous vivez dans un centre-ville, dans un appartement, ou vous êtes dans le périurbain, dans une maison avec deux voitures, vous n'avez pas du tout le même choc inflationniste. C'est pareil, le poids de cette énergie n'est pas le même quand vous êtes classe moyenne, classe modeste, ou quand vous êtes plus riche, quoi. Donc, la question, elle est macroéconomique et microéconomique. C'est-à-dire qu'il y a aussi derrière une question sociale, c'est-à-dire à la fois, comment vous encaissez le choc d'inflation, comment l'État peut répondre à ça, et quels sont les effets de second tour. C'est qui est protégé, qui n'est pas protégé. On voit les retraites vont augmenter, le SMIC augmente. Mais par contre, les salaires qui sont au-dessus du SMIC, on en a parlé tout à l'heure, malheureusement, ne vont pas augmenter à la même vitesse. Donc, vous avez aussi un risque de tassement des salaires vers le bas.
Je peux faire une très brève provocation.
Moins d'une minute et après, on marque une pause.
Quand
un peu plus près le micro, Philippe.
Pardon, quand le prix de l'essence monte, évidemment, selon que vous consommez beaucoup ou pas d'essence, vous êtes plus ou moins victime. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les gens qui vivent dans des zones semi-rurales et qui ont des voitures et qui ont besoin d'avoir des voitures sont les plus concernés. Quand le prix de l'essence baisse, ça s'est vu, parce que là, tout le monde oublie toujours que tout est cyclique. Là, on est dans une période de hausse du prix des carburants. Enfin, il y a eu avant une période de baisse des carburants.
Ça fait 38 ans qu'il n'y a pas eu autant d'inflation.
Mais ça, c'est une autre question. Mais on parle de la question des carburants dont vous disiez vous-même qu'elle constitue l'essentiel de la question de l'inflation et qu'elle est au cœur de la question des inégalités en termes d'impact. Entre il y a 10 ans et il y a 5 ans, de tête, on a dû passer de 1,50 à 0,90 le litre de gazole. Ça monte et ça descend, ces trucs-là. À l'époque, on ne s'est pas dit, c'est quand même très très choquant, parce qu'il y a un bénéfice de pouvoir d'achat pour les semi-urbains très considérable, dont les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais qui n'ont pas de voiture ne bénéficient pas, c'est problématique. C'est normal qu'en fonction de votre structure de consommation, vous ayez parfois des avantages, parfois des inconvénients. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Je dis simplement qu'il y a une asymétrie dans cette lecture. On est tout le temps en train de plaindre ceux qui souffrent et jamais en train de se dire qu'il y en a qui en bénéficient. On pourrait dire la même chose, par exemple, sur la protection qu'on a offerte aux cafés-restaurants pendant le Covid. Aujourd'hui, c'est la fête du slip dans ce secteur-là. Tant mieux pour eux, je suis très heureux pour eux. Mais il n'y a pas de clause de retour à meilleure fortune. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on est tout le temps en train de guérir les écrouelles, c'est normal qu'on finisse ruiné.
Certains établissements qui ont été aidés ont même avoué qu'ils avaient mieux vécu étant fermés.
Meilleure année ever.